nuits de France Culture. Jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Une maison n'est pas un corps de logis, mais un corps de songe, écrivait Gaston Bachelard. C'est vers l'une de ces demeures telles qu'on les rêve que nous transporte le dernier volet de la série Maison de famille de Francesca Fossati. C'est en Charente-Maritime, entre Saintes et Rochefort, ça s'appelle le cormier. Le cormier, du nom de cette espèce d'arbre en danger dont l'espérance de vie n'est guère de plus de 150 années. Un siècle et demi, comme les 6 générations qui se sont succédées jusqu'à aujourd'hui dans cette maison au cœur d'un domaine agricole toujours en activité. On y plante un arbre à chaque naissance, on y mange et on y distille les fruits du verger. Les photos des ancêtres, les lits à édredon, les tartines beurrées, les bonnes odeurs de cuisine. On s'y retrouve pour les fêtes de famille, mariages, baptêmes et communions. La maison de famille comme un remède à l'éparpillement et à l'oubli.
Maison de famille. Francesca Fossati et Marie-Ange Garando.
Le souris, il courait dans l'air. Il a tapé par la queue. Tout le monde me trace. Monsieur Joli, il est là dans l'eau. On fait la dans l'eau, ça sera avec ta coupe tout chaud.
La première fois que je me suis rendue là-bas, j'ai eu envie d'y rester. Je ne sais pas pourquoi. Il y avait dans le jardin un arbre magnifique, sous lequel je m'imaginais passer des soirées d'été, à boire du vin et refaire le monde. Il y avait des bruits dans la cuisine qui m'étaient familiers. Il y avait des photos accrochées au mur, des photos de femmes côte à côte. Les premières en noir et blanc, et ensuite en couleur. On m'a dit que ces femmes s'appelaient Marie-Louise, Isabelle, Geneviève. Geneviève, c'est Mamou, la grand-mère de cette grande famille. C'est elle qui a le plus de souvenirs dans cette maison. Ensuite, il y a sa fille, Marianne, et sa petite fille, Agnès.
Mamou, vous m'appelez Mamou. Tout le monde m'appelle Mamou, ils amènent des amis, c'est Mamou, ils m'appellent tous Mamou. Les jeunes, les grands, les petits.
Donc alors, cette maison de famille, elle existe depuis combien de générations?
Eh bien, on arrive à la 6e génération avec les petits. Ma grand-mère, donc, c'est mon grand-père qui avait acheté la propriété en 1917. Et ma mère avait, elle est née, elle avait 16 ans, elle est née en 1901. Et mon grand-père, donc, avait eu un coup de cœur, peut-être, pour cette maison. Et puis, comme il était très... Tu avais dit un mot, Marianne, toi. Oui, ben oui, ça fait rien.
Quand tu parles de ta grand-mère et tes grands-parents, tu peux les appeler ma grand-mère Marie-Louise.
Marie-Louise, ma grand-mère et ma grand-mère.
Mon grand-père Marie-Louise, Martial.
Et mon grand-père Martial. Et mon grand-père, il n'était pas saintongeais, et il était de la Dordogne. Il faisait son tour de France. Ils étaient quatre garçons, et quand il a été l'aîné, bon, ben, il n'y avait peut-être pas beaucoup de travail à trouver là où il était. Hein. Et il est parti à l'aventure, et il a trouvé à Saint-Savinien, il a trouvé du travail, et s'est installé. Et il a trouvé du travail à côté d'une ferme. Et il y avait une jeune fille, Marie-Louise, Marie-Louise Hérault, qui était donc là à la campagne, ses parents cultivaient la propriété. Et elle, ça l'intéressait pas du tout. D'autant plus que leur ferme était pratiquement sur la ville, à l'entrée. Vraiment à l'entrée. Si bien qu'elle avait des amis de la ville, quoi, qui n'avaient pas les mêmes façons de famille que sa famille à elle. Non pas qu'elle dénigrait sa famille, parce que c'était une famille nombreuse, c'était une famille très unie. Il y en avait dans tous les petits villages autour de Saint-Savinien. Et on voisinait beaucoup. On n'avait pas la télé à l'époque. On voisinait beaucoup, on cousinait, et puis on se mariait, on se mariait. Et alors donc, mon grand-père s'est donc marié avec elle, Et puis ils sont restés sur place. Ils sont restés sur place et mon grand-père travaillait donc dans une forge. Après, il a été celui qui était devenu patron, si on peut dire. Et il était très aventurier. Il y avait donc une ferme qui appartenait à sa femme. Quand il a épousé, il y a les grands-parents, les parents. Il y a eu des grands-parents qui sont venus habiter chez eux, les grands-parents âgés, parce qu'à l'époque, les parents âgés, on les recevait chez soi, obligatoirement. C'est pas comme maintenant. Et puis, ils ont continué leur chemin. Alors, ma grand-mère, comme elle ne travaillait pas à la forge, bien sûr, elle voulait travailler. Et alors, elle a donc créé une petite épicerie. Et tout le monde s'est trouvé aligné. Il y avait la forge, il y avait l'épicerie qu'on a construite dans leur maison d'habitation. Même une étable pour les vaches et une écurie, il y avait des chevaux, il y avait deux grands chevaux. Et il y a eu, tout le monde était ensemble. Et c'était une vie vraiment très familiale. Et toute leur vie, ils sont restés là parce qu'ils ont fait des transformations. La forge a été passée à d'autres. L'épicerie, ma grand-mère l'a arrêtée un jour, elle l'a arrêtée, quand elle en a eu assez. Et ils sont tous restés dans les immeubles. Et ça existe encore, puisqu'il y a un descendant donc, de mon oncle qui cultive encore les terres.
Et donc cette maison dans laquelle nous sommes aujourd'hui, elle a été achetée au départ comme une maison de vacances.
Non, elle a été achetée pour la cultiver. Parce que mon grand-père était un grand travailleur. Et c'est devenu une maison de vacances par la force des choses, puisqu'ils ne pouvaient pas habiter les deux maisons. Ils y venaient le dimanche ou les fêtes. Et nous, quand on était jeunes, quand on habitait chez mes grands-parents. Et j'avais peut-être 17-18 ans quand nous avons fait, comme c'est devenu une résidence secondaire. Alors donc, nous sommes nous, avec mon mari, mes parents sont d'abord installés là. Ils venaient tous les 6 mois, passer la belle saison, car mon père a été en retraite. Et puis après, ben, nous avons continué. Mon mari se plaisait beaucoup ici, il aimait la campagne. Et puis lui, alors c'était plutôt un artiste mon mari, hein. Il sculptait la pierre.
Parce que je vois qu'ici, il y a beaucoup de sculptures, de statues, oui. Il y en a ici dehors, dans le jardin, il y en a sur la cheminée à l'intérieur.
Oui, et ça c'était des œuvres de mon mari. Mon mari faisait de tout, il bricolait très bien, mais il faisait ça en artiste. Alors que mon gendre, lui, est très adroit, il fait des choses parfaitement, selon les règles de l'art. Mais mon mari, qui était un artiste, il faisait. C'était d'ailleurs, ça avait un certain chic. Et mon mari n'était pas originaire de la campagne, il était de Brive, en Corrèze. Et il habitait la campagne, il a été élevé en campagne, mais pas avec des campagnards. Alors, il s'est très vite adapté à la campagne. Il était...
Non seulement il s'est bien habitué à la campagne, mais il est tombé amoureux de la maison et de la propriété. Puisque papa, qui était dans l'administration, a toujours refusé d'évoluer, non pas par manque d'ambition, mais parce qu'il voulait rester non loin de cette propriété. Parce qu'il avait vraiment... C'était devenu pour lui une passion. Donc tous les week-ends, il y venait, il entretenait le jardin, il bricolait. Et s'il avait été muté à Paris ou à Marseille, il n'aurait pas pu venir tous les week-ends et toutes les vacances.
Il a refusé son avancement. Alors plutôt que d'aller se promener à droite et à gauche, comme mon père a beaucoup circulé, moi j'ai beaucoup circulé avec mon père, et mon mari, bon ben on s'est installé là, on était très bien. Mes parents avaient perdu mon frère, donc un fils, et évidemment c'était assez triste pour eux. Ils étaient bien contents de garder leur fille dans leur coin. Donc nous sommes restés à Rochefort, et j'y suis encore. Mon mari est décédé en 2001 et ça fait 86 ans que je viens passer mes vacances à Saint-Savinien. Plus ou moins longues, ça dépendait des périodes. Mais dès que ma fille était sortie de l'école, on arrivait, le dimanche on venait, le week-end.
Et
Marianne,
les grandes vacances.
Et Marianne venait faire ses révisions d'examen. Tu venais faire tes révisions
dans
ici.
Dans la petite chambre là-haut.
Oui, dans la petite chambre.
Avec les petits oiseaux, ou sous la treille apaisante, je m'installais avec mes polycopes quand j'étais en fac.
Voilà.
Et vous, Marianne, c'est quoi les souvenirs les plus anciens que vous avez dans cette maison ?
Les plus anciens, j'avais peut-être 6-7 ans. Je me souviens, là, sur cette terrasse, un petit souvenir complètement anodin, mais dont je me souviens toujours. Mon grand-père, qui bricolait beaucoup, avait dû restaurer ses vieux murets. Il rejointait un peu les pierres qui s'écroulaient. Et donc, il brassait, il faisait du ciment, il brassait ce ciment. Et moi, ça m'intriguait. Et je le voyais avec sa petite truelle et je rêvais de manipuler, de manier le ciment. Mais je n'avais pas le droit, je devais avoir 6 ans. Et un soir, tout le monde avait disparu et je vois exactement ici un seau, un vieux seau, et au fond, une espèce de nappe de ciment. Et j'avais attrapé une petite truelle, j'avais prélevé un peu de ciment et j'avais bouché un petit interstice du muret. Et quelques temps plus tard, mon grand-père s'en est aperçu. Et en fait, il avait coulé cette petite plaque de ciment au fond du seau parce que le seau était troué. Et pour le boucher, il avait mis du ciment. C'est un vieux souvenir. Et puis ensuite, mes vieux souvenirs, c'est ma petite enfance. J'ai pas tellement de souvenirs, mais 10-12 ans, si j'avais mes petites cousines, parce que j'ai des cousines issues de Germaine. Donc mes cousines venaient jouer ici. Ensuite, mes petites amies, on invitait beaucoup d'amis. Comme j'étais toute seule, mes parents faisaient en sorte que je sois un peu entourée. Et autrement, mes vieux souvenirs, c'est des souvenirs quand même d'une enfance assez solitaire entre 4 adultes. Mes grands-parents, mes parents, tous les 5 d'ailleurs, les amis de Rocheforté nous appelaient la Sainte Famille, parce qu'on était très très unis. Donc on ne faisait jamais quoi que ce soit sans tenir compte de ce que les autres faisaient. Bon, si papa et maman sortaient, à une heure raisonnable, ils disaient « il faut qu'on rentre pour savoir ce que font les grands-parents ». On se couvait un peu tous les 5. On vivait un petit peu en autarcie, mais je pense du fait qu'on avait eu quand même pas mal de malheurs. On n'en avait pas spécialement eu beaucoup. Mais moi, j'ai connu ma grand-mère, par exemple, ma grand-mère Isabelle, donc la mère de maman, habillée en noir toute sa vie. En noir, en gris ou en mauve, en parme, la couleur à la mode maintenant. C'était des couleurs de deuil, parce qu'elle a porté le deuil de son fils, de mon oncle, toute sa vie.
Et puis donc, vous avez grandi, et vous-même, vous avez eu une fille,
oui.
Agnès.
Ben, j'ai grandi, puis les hasards de l'existence ont fait que je ne suis pas partie à l'autre bout de la France. Je suis restée, j'habite à 60 km d'ici, donc j'ai pu continuer à venir régulièrement.
Et vous avez pu transmettre l'amour de ces lieux à votre fille.
J'ai pu transmettre l'amour de ces lieux. Oui, je ne sais pas si j'ai fait quelque chose pour le transmettre ou si cela a été naturel.
C'est venu automatiquement.
Je pense que
automatiquement, parce qu'il y a eu vraiment une transmission toutes les trois. Mais on s'est souvent engueulés. Mais on s'aime, on peut pas se séparer.
Souvent, je dis qu'on est une sorte de trio infernal.
Voilà.
Parce que chacune, on a toutes des personnalités différentes. Moi, par exemple. Je suis prise entre deux feux, entre maman et ma fille, deux personnalités très fortes, un peu autoritaires. Et puis moi, je nage au milieu de tout ça, j'essaie de survivre comme je peux. Et puis.
Et vous voyez, nous sommes heureuses quand même.
Et pour vous, Agnès, c'est quoi cette maison ?
C'est le seul lieu. En fait, j'ai 32 ans et j'ai déménagé 15 fois dans ma vie. Et finalement, le Cormier, c'est le seul lieu qui me suit vraiment depuis que je suis née, puisque moi aussi, ça fait 32 ans que je viens passer mes vacances ici, et où que j'habite, où que je sois, je reviendrai toujours passer mes vacances au Cormier. Alors, plus ou moins longtemps, effectivement, mais j'ai la chance d'avoir épousé quelqu'un qui, manifestement, est également tombé amoureux du Cormier, et d'avoir des enfants qui... comment dire, dont un des premiers mots en général est Cormier.
Alors là, il y a quand même quelque chose qui s'est un peu cassé dans l'histoire de femme, parce que donc Agnès, vous avez eu 2 garçons.
Et oui, 2 garçons.
Et alors les garçons, pour vous, l'arrivée des garçons?
Ah, mais je suis très heureuse parce que comme disait Marianne tout à l'heure, un trio infernal, c'est vrai, on s'adore. Mais on ne peut pas se dispenser de se lancer des trucs comme ça. Mais ça ne dure pas, hein. Ça ne dure pas. Et puis, ben, 2 garçons, ça change, ça nous change un petit peu.
C'est un revirement de jurisprudence.
Et puis moi, j'ai souffert de la perte de mon frère. C'est sûr que je me suis retrouvée toute seule. Et un garçon, bon, ils ont été les bienvenus, mais tout de suite, on n'a pas du tout dû. Oh, on aurait préféré des filles, on n'a pas dit ça.
Et surtout, hein. Ce qui change, c'est désormais les jeux qui jonchent le sol de la maison et le jardin. puisque désormais maison, on a des
la maison
des voitures.
Qui a été faite en fonction des filles. Et alors, bon, ben, les garçons arrivent, on va les garder quand même. Hein. Mais on va changer certaines choses dans la maison, on va s'adapter aux garçons.
Alors ça c'est terrible.
On t'en donnera pour ton dessert.
Faut appeler la pendule.
Non.
Ça.
Super rose.
La rose de plante.
La rose pas de pied.
Quatre hommes habitent maintenant la maison. Claude, le mari de Marianne. Maxence, le mari d'Agnès. Et leurs enfants, Urbain et Edgar. Dans une maison de femmes, ils ont essayé de se faire une place. Est-ce qu'avec deux garçons, ça va continuer comme avant ?
Ça dépend des belles filles.
Ça dépend voilà, des belles filles.
Le mot qu'il fallait
on
dire.
On y pense déjà, on anticipe un peu trop, mais on y pense.
On a même dit des choses. Marianne a dit un jour, s'il y a des belles filles ici, eh ben, il faut qu'on change la maison, parce que tout ce bazar, ça va leur faire peur.
Mais est-ce que vous serez capable, justement, vous, de pouvoir changer ?
Moi non.
Et vous, Marianne ?
Oui.
Ah oui, moi j'ai beaucoup de projets. Je vais remanier la maison, je vais laisser les souvenirs principaux. Mais je vais essayer de dégager les armoires pour faire la place, justement, si les belles filles amènent deux ou trois valises de robes, qu'elles puissent les suspendre. Je vais essayer de moderniser. Déjà l'an dernier, parce qu'ici c'est une maison de campagne, rustique, bucolique. Donc j'ai modernisé. L'an dernier, j'ai acheté une machine à laver la vaisselle. Ça a l'air de rien, mais ça nous a changé la vie. Parce que les débuts d'après-midi à faire tous la vaisselle, et souvent c'était la même personne qui la faisait, c'était pas drôle. Donc je vais essayer de moderniser un peu comme ça, en espérant que les futures belles-filles aimeront quand même la vie simple, mais seront quand même aidées dans leurs tâches quotidiennes.
Je pense qu'il faudrait qu'elles soient difficiles pour ne pas pouvoir s'adapter ici.
Oui, mais si elles n'aiment pas du tout la campagne, il y en a qui n'aiment pas la campagne. Donc...
Oui, mais les garçons qu'elles épouseront, eux, ils aiment la campagne, et j'ai l'impression que ça va leur rester. Il s'est attaché très tôt, Maxence. Très tôt, il a montré qu'il aimait venir là.
D'ailleurs, on a fait tous les événements familiaux. On a fêté toutes les grandes
toutes
fêtes
les
de famille au Cormier.
Au Cormier, on n'aurait pas eu.
Avec Maxence, nous nous sommes fiancés ici. Puis nous nous sommes mariés ici. Puis nous avons baptisé notre premier enfant ici. Et la même chose pour le deuxième. Et Maxence ne conçoit pas une fête de famille ailleurs qu'au Cormier, alors que finalement... Il n'est que pièce rapportée, entre guillemets, dans la famille, mais il ne conçoit pas d'organiser ça ailleurs.
Ça fait partie de nous.
Nous n'irons plus où les lauriers sont et la belle que vous.
Alors Claude, qu'est-ce que vous nous préparez ?
Alors il y a trois noms. Les Canadiens appellent ça gâteau brûlé. Urbain appelle ça gâteau balou. C'est des tourteaux fromagés. Cette spécialité, oui, je m'en suis fait une spécialité.
Alors comment est-ce que vous avez trouvé votre place ici, à travers le gâteau ou...
À travers le jardin, à travers le gâteau, à travers toutes les tâches que les femmes ne pouvaient pas accomplir parce que à un moment, la maison a été un peu abandonnée parce qu'il n'y avait plus d'hommes à la maison pour faire les gros travaux. Donc voilà, je suis intervenu, je suis arrivé.
Il a amené ses petits souvenirs familiaux, puisque Claude est originaire des Deux-Sèvres. Il est issu d'une vieille famille de protestants. Il avait des arrière-grands-parents protestants. Et les tontons fromagers, c'est le gâteau protestant. C'est le gâteau que l'on fait du dimanche des protestants. Le gâteau brûlé, comme disait mon mari, c'est tout à fait... Alors ces tourteaux, Claude s'est mis à les faire ben, finalement quand il est rentré dans notre famille. Un jour, il a eu envie de s'y mettre et ça a été un très très long apprentissage parce que c'est très difficile de les réussir, de ne pas faire de bulles à l'intérieur. Donc pendant une année, régulièrement, tous les 8 jours, il s'exerçait à faire les tourteaux. On a la chance d'avoir hérité, puisque c'est un héritage, de cette maison qui est vraiment située dans un lieu enchanteur. C'est un véritable petit paradis ici, on peut pas rêver mieux. C'est une maison au fond des bois, située sur une hauteur, dans une enceinte de ferme, avec une cour de ferme, des bâtiments, la ferme qui fonctionne toujours à l'heure actuelle grâce à Catherine. Et puis alors, dans ce petit clos, il y a cette jolie maison qui donne sur un grand jardin entouré de murs et avec un bois de chêne vert devant, avec une allée cavalière qui sépare les deux côtés du bois. C'est très beau. C'est...
Il y avait tout dans cette propriété. Il y avait tout pour vivre. Il y avait la maison de maître, la maison de ferme. Il y a eu une période où il y a eu 5 foyers. Parce que les vieilles maisons que vous pouvez voir l'autre côté, on s'y logeait d'une façon de l'époque. On descendait dans la pièce principale sur la terre battue. Je vois encore ma grand-mère. Quand c'était la saison des fraises, mon grand-père apportait des paniers de fraises du jardin, des grosses moutons, ça s'appelait des grosses moutons autrefois, c'était pas des petites fraises, là, comme on appelle des gariguettes. C'était des grosses fraises qui s'écrasaient bien, elles étaient mûres, évidemment, on prenait les plus mûres, sur une grande tartine de pain de campagne. On les écrasait un peu, plein de sucre en poudre dessus, et bien moi je me régalais, et j'étais heureuse. Il n'y a pas besoin de grandes choses pour être heureux. Et quand ma grand-mère faisait des gâteaux charentais, parce qu'elle les faisait, elle allait chercher une tôle chez le boulanger, et alors elle en faisait une grande, elle la portait chez le boulanger pour qu'il la cuise, les voisins en faisaient autant. Et alors, je me souviens, étant petite, un jour, c'était coquine, hein. Elle avait étalé ça par terre avec un torchon dessus, évidemment, dans la salle à manger, pour défense d'y aller. Moi, j'avais été à pieds joints dessus. Eh bien, c'est des souvenirs d'enfance heureuse. Parce que j'étais heureuse. Si on se rappelle de rien, alors on vit dans le vide qu'avec le présent. Mais le présent est très bien, et il n'est pas toujours très bien, le présent. Il n'est pas toujours ce qu'on voudrait.
Oui, justement, les souvenirs de famille, dans les souvenirs de famille, il y a les souvenirs joyeux, puis les souvenirs tristes. Oui. Mais finalement, la mémoire après... fait le ménage dans tous ces souvenirs et on retient essentiellement les bons souvenirs.
Alors un bon souvenir.
Alors les bons souvenirs, cette foison de bons souvenirs, ça aide à supporter le quotidien parfois difficile, le quotidien actuel. Et quand on a un souci au cours de notre existence, on a forcément des moments difficiles. Et ben quand on revient dans sa maison de famille avec tous ces vieux souvenirs, ben, c'est comme un médicament.
Ben c'est ça la vie de famille.
Oui, c'est ça.
Alors, il est certain qu'on a de la chance d'avoir de la famille et d'avoir des souvenirs, une maison qui vous rappelle. Eh bien, c'est une grande chance, c'est sûr que on voudrait faire partager aux autres.
On a de la chance d'avoir une maison, d'avoir pu conserver cette vieille maison.
parce qu'on a pu y entasser ces souvenirs. Sans maison, on aurait les souvenirs, mais ils seraient éparpillés. Ils seraient à droite, à gauche. Quand on arrive là, ils sont tous là. Et c'est un réconfort.
Mais finalement, pour toi comme pour moi, une maison de famille, c'est plus qu'une maison, qu'une bâtisse, que des pierres. C'est un véritable individu. Moi qui suis fille unique. Bon ben, quand tous mes ancêtres auront disparu, je vais me retrouver toute seule. Je ne pourrai pas évoquer mes souvenirs. Et grâce à la maison, je pourrai les évoquer avec ma fille, mais pas mes propres souvenirs d'enfance. Grâce à la maison, je les retrouverai. Je serai un peu seule face à mes souvenirs, mais je serai pas toute seule. Alors là, on continue la promenade dans le jardin et on va trouver les arbres des enfants. Depuis la naissance d'Agnès, on a imaginé qu'à chaque naissance, on planterait un arbre. Lorsque j'attendais Agnès, je devais être enceinte à peu près 9 mois, j'ai planté avec son père ce magnifique tilleul, qui était vraiment tout petit. Regardez comme il est beau. Il nous sert aussi de parasol l'été. Et au printemps, au mois de mai-juin, on récolte les fleurs de tilleul pour faire de la tisane. Maxence adore d'ailleurs la tisane de tilleul. Souvent, on en prend au coin de la cheminée, le soir, après le dîner, avant d'aller se coucher. Quand mon petit-fils Urbain est né, la question s'est posée de savoir quel arbre on allait lui planter. Et comme dans le jardin d'à côté, il y avait un vieux cerisier qui commence à décliner, et qu'on est toujours content à la saison de manger, de croquer quelques bonnes cerises, j'ai dit à Claude, tiens, on va planter un cerisier, les enfants adoreront. Il y a 15 jours, je l'ai pris en fleurs, il était tout en fleurs, des magnifiques fleurs blanches, on aurait dit un bouquet de mariée. Un cerisier, on s'est dit que c'était pas suffisant, parce que tous les ans, on aime bien avoir beaucoup de fruits pour faire des confitures. Donc, de l'autre côté du petit muret, on a planté deux pruniers. Quand Edgar est né, mon deuxième petit-fils, on s'est dit, que va-t-on planter? Et Claude a eu l'idée de planter 4 chênes truffiers. Ils sont tout petits pour l'instant, mais dans 10 ans, a priori, on pourrait commencer à récolter des truffes, sauf que nous n'avons pas de chien. Alors Claude, comment ferons-nous?
Je ne sais pas, il va falloir que j'apprenne à trouver les truffes à la mouche. Donc on m'a dit qu'il fallait mettre une badine, fouetter le sol, et puis là où une mouche s'envole, il y a une truffe. Alors on a un certain temps pour apprendre à chasser les truffes ou à trouver les truffes à la mouche.
Là, près de cette cuve, il y a un arbre qui malheureusement ne pousse pas tellement dans notre sol, le sol de notre jardin. Il est tout tordu. Il est tout tordu parce qu'il y avait des grands pruniers. Il y a des grands pruniers. Il y a 50 ans, mon père avait imaginé de mettre tout un tas de pruniers sauvages pour faire une bonne verdure autour du jardin. Et la prune sert à faire des confitures.
Il y a un autre usage des prunes, c'est-à-dire que l'année dernière, j'ai tout ramassé et puis j'en ai ramassé 80 kilos que j'ai mis à bouillir et on a été voir le bouilleur du cru local et on a fait un certain litrage d'eau de vie qu'on fait déguster aux amis quand ils arrivent.
C'est pour loger les hirondelles, que direz-vous de Cadet Roussel?
Ah, 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 oui, mais non, Cadet Roussel, les bonnes enfants.
Cadet Roussel a 3 habits, 2 jaunes, l'autre en papier gris.
Cadet Roussel a 3 habits, 2 jaunes, l'autre en papier gris.
Il met celui-là quand il gèle, ou quand il pleut, ou quand il grêle.
Ah, 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 oui, mais non, Cadet Roussel, les bonnes enfants.
Maison de famille. Aujourd'hui, au Cormier, en Charente-Maritime, avec Geneviève, Marianne, Claude, Agnès, Maxence, Urbain et Edgar. Prise de son, Jérôme Knocard. Mixage, Valérie Lavallard. Une émission de Francesca Fossati, réalisée par Marie-Ange Garimbeau.
On dit qu'il apprend l'orthographe pour faire lui-même son épitaphe. Ah, oui, vraiment, Cadet Roussel n'est pas un enfant.
Ce dernier volet d'une série de 5 émissions a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 29 août 2010.
Thank you.